se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
C'est Ahmed qui débute ce week-end des experts en ce samedi matin. Bonjour Ahmed.
Oui, bonjour.
Bonjour Ahmed, bienvenue.
Bienvenue bonjour. Ahmed sur RMC. Vous nous appelez d'où Ahmed ?
De Seine-et-Marne.
Eh bien, écoutez, bienvenue dans ce week-end des experts. C'est le jardin pour commencer. Et je crois que vous aviez une question pour Patrick Mignolan.
Exactement. Mais par contre, c'est pas pour jardiner en bio, mais par contre, moi, je cherche quelques conseils pour faire pousser une haie, comme je vous l'ai envoyé par
photo. Oui, j'ai vu les photos, Ahmed. Vous avez commencé à planter des lauriers roses.
Exactement.
Je pense que vous avez déjà fait un mauvais casting, parce que...
Alors, vous vouliez planter des haies, pourquoi ? Pour justement avoir un... créer une espèce
pour casser
de... le vis-à-vis
par rapport au voisin.
D'accord. Oui, alors déjà, vous avez quand même une belle clôture de séparation, donc votre voisin, vous ne le voyez pas trop. Bon, là, effectivement, l'idée, c'est plutôt d'habiller cette occultation par du végétal. Alors, je disais, vous avez fait une erreur de casting avec les lauriers roses, parce que ce sont d'abord et premièrement des plantes méditerranéennes. Donc, en... Seine-et-Marne, il y a quand même un gros risque, même si effectivement, et là, il faut qu'on leur tire les oreilles aux jardineries parce qu'ils ne sont pas toujours bien sérieux par rapport à ça, notamment en Île-de-France où on vous propose chaque printemps une quantité de plantes méditerranéennes invraisemblables, avec ces risques quand même de ne pas avoir la plante qui va tenir le coup sur des hivers qui... Forcément, même si on est dans une vague, on va dire, de réchauffement ou de bouleversement climatique, à un moment donné, en Seine-et-Marne, vous aurez moins 10, moins 12. Et là, quick, vous aurez un gros problème avec vos lauriers roses.
Et quick.
Deuxièmement, le laurier rose étant une plante, encore une fois, méditerranéenne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des plantes qui sont habituées à de longues périodes de sécheresse. On a eu ça cette année, formidable, sauf que ça ne veut pas dire forcément que ça va revenir. Et d'ailleurs, on le voit très très bien, depuis la rentrée, depuis septembre, il tombe sur la région parisienne une quantité d'eau quand même relativement importante, qui ne plaira pas forcément aux lauriers roses et qui va... générer sans aucun doute des maladies cryptogamiques, notamment des taches noires sur les feuilles. Voilà, François, il en a quelques-uns, mais ils sont un peu plus abrités sur une terrasse, ça sèche plus rapidement que dans un jardin en pleine terre. Parce que là, vous, Ahmed, sur la photo que j'ai, vous les avez plantés en pleine terre, donc je dis ouïouïouï. Bon, ne les arrachez pas, ils sont là, tant mieux, mais de toute façon, l'idée, ce n'est jamais maintenant de faire une haie en... monoculture, c'est-à-dire de ne pas avoir une seule plante. Il faut absolument créer de la biodiversité en mélangeant des espèces variées. D'abord, c'est plus joli. Ensuite, ça attire les oiseaux. Et surtout, ça va créer un écosystème bien plus équilibré dans votre jardin. Notamment, imaginez que... Allez, on va être gentil, on va dire dans 3 à 5 ans, lorsque vos lauriers roses seront bien développés, tout d'un coup, bing, voilà le coup de froid. Vous avez planté que ça, votre haie, elle est foutue. Bon... Alors que si vous écartez plus les lauriers roses, parce que bien entendu, maintenant qu'ils sont là, on va quand même les garder, et d'autant plus que vous avez un autre mur de l'autre côté, donc vous pouvez allonger quand même votre haie, moi je dirais que vous arrachez, vous retirez un sur deux, et
oui.
Au milieu de tout ça, vous allez ajouter de nouvelles plantes. Alors, qu'est-ce que l'on peut mettre qui pousse bien, qui pousse vite, et qui est adapté à la Seine-et-Marne ? Énormément de choses. Notamment, par exemple, vous pouvez mettre des lilas. Vous pouvez mettre... Bon, alors, des fautinières, on en voit partout. Vous pouvez mettre tous les arbustes que l'on voit au printemps ou en été. Par exemple, les arbres à papillons. Je sais qu'il y a une polémique là-dessus parce qu'ils sont devenus invasifs. Sauf que on trouve aujourd'hui des variétés qui sont stériles et qui donnent aussi une belle végétation avec des floraisons estivales. Les Zaltea, les hibiscus syriacus, par exemple, poussent très très bien en Île-de-France et se développent d'une façon généreuse. Alors après, il y a des plantes encore plus simples, du style cotonaster, du style troène, par exemple, qui font d'excellentes plantes de haie. Mais encore une fois, mon conseil, c'est mélanger plusieurs espèces.
D'accord.
Donc, entre chaque laurier rose, mettez un arbuste différent, de manière à créer quelque chose qui va vous donner d'abord satisfaction plus longtemps, parce que vous aurez, par exemple, les lilas fleurissent au printemps, les buddleias fleurissent en été. Vous pouvez mettre les cotonéasters, ça vous fait des grappes de fruits décoratifs en automne, etc. Donc voilà, en variant cela, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus sympa.
D'accord, ok.
Eh bien voilà, Ahmed.
Eh ben, je vous remercie.
Bon jardinage, c'est la période.
C'est la période, planter, hein, pour planter. Allez-y. Hein.
D'accord, ok, ça marche. Ben, je vous remercie pour les conseils.
Et merci de votre fidélité, Ahmed. À très bientôt.
À très bientôt, au revoir.
Et si, tout comme Ahmed, vous voulez joindre Patrick, profitez-en, évidemment. Nous sommes en direct, évidemment, à tout moment. Vous pouvez poser votre question ou alors réagir sur l'actualité du jardin. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, RMC qui est la seule radio à vous proposer une heure dédiée au jardin chaque samedi, 6h20. Il est temps de retrouver le conseil de l'expert de Patrick.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC, l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Alors Patrick, on va parler de jardin en biodynamie, mais en préambule, vous vouliez faire une déclaration solennelle.
Voilà.
Attention.
Alors je voulais vous dire que personnellement, je ne partage absolument pas, mais vraiment pas, les principes de la biodynamie. Moi, personnellement, je considère ça comme du pur charlatanisme. C'est, vous verrez pourquoi, mais il me semblait important, puisque en fait, on voit de plus en plus de gens, et même de publications, il y a des calendriers biodynamie qui sortent, etc., que bah, vous soyez informés, que vous connaissiez les principes.
Oui,
bah,
voilà,
vous expliquez ce que c'est. Mmh. Après, vous y croirez ou pas. Mais je vous le dis quand même que moi, ma position est négative, de façon à ce que vous compreniez de temps en temps mes remarques. Après, je vous laisse libre, évidemment, chacun.
Oui, bien sûr.
Ou pas.
Alors Patrick, ça serait peut-être pas mal d'expliquer ce qu'est, en fait, le concept de l'agriculture biodynamique.
Donc, il faut déjà savoir que c'est relativement récent, puisque c'est en 1924 que Monsieur Rudolf Steiner, qui se présentait comme un scientifique, mais qui est en réalité quelqu'un qui est à la fois un philosophe et un occultiste, c'est-à-dire quelqu'un qui croyait plus dans les sciences un peu occultes, oui, qu'autre chose, qui a posé les fondements de cette agriculture biodynamique en faisant des conférences en Silésie, et il avait fait évoluer, en fait, les idées de l'agriculture biologique. Donc c'est quelqu'un qui avait créé déjà une sorte de philosophie qui est assez sectaire, qui s'appelle l'anthroposophie, et qui est un courant de pensée qui décrit, en fait, sans vraiment grande rigueur scientifique, des phénomènes, on va dire, à la fois ésotériques et surtout quelque chose qui est la science de l'esprit. Pour lui, en fait, disons, tout ce que l'on peut penser est quelque chose de primordial.
Anthroposophie, vous savez combien il faut de H, anthroposophie? Il en faut un paquet quand même, hein. Il en faut au moins deux. Qu'est-ce qui rapproche cette anthroposophie, justement, des techniques de culture, Patrick?
Alors, ça s'est dérivé en allant voir les agriculteurs et en leur expliquant, justement, qu'il n'y avait pas de rationnel dans le monde, sur la planète, et qu'on pouvait, en ressentant, on va dire, tous les mouvements de la Terre, en comprenant les rapports qu'il pouvait y avoir avec la Lune, avec les constellations, etc.,
oh là là là,
avoir un phénomène global qui nous permettait d'être meilleurs et de mieux connaître les choses. Voilà.
Il y a des méthodes quand même qui sont conseillées dans
Alors,
tout ça.
Oui, parce que
c'est pour l'instant, c'est un peu, j'allais dire, fumeux, mais non.
C'était pas trop trop fumeux au départ, parce que il s'est basé sur l'agriculture biologique. C'est-à-dire, donc, en disant uniquement des intrants naturels, une préparation du sol sans labour, utilisation de compost, mais c'est là que le bas blesse, il a ajouté ce petit côté ésotérique, donc dont je viens de parler, l'influence supposée des rythmes lunaires et planétaires dans le... Alors, nous, on est au jardin, mais c'est la même chose. Il est parti sur la ferme, mais le jardin, c'est la même chose.
Alors, on sait que vous n'y croyez pas, et en vous écoutant expliquer un peu ce que c'est, on peut évidemment adhérer à vos pensées, mais est-ce qu'il y a quand même des concepts valables dans la biodynamie?
Oui, bien entendu, c'est pas complètement nul. C'est-à-dire que, par exemple, il dit une chose. Une plante ne devient pas spontanément malade. En fait, elle se fragilise lorsque son environnement, et notamment le sol, n'est pas totalement adapté, ou par exemple aussi que la plante est intégrée dans un climat qui ne lui convient pas, comme on vient de discuter avec Ahmed, par exemple, pour ses lauriers roses en Seine-et-Marne. Donc il dit qu'il faut chercher les causes des maladies des plantes, et pas simplement le vecteur lui-même, et ça c'est quelque chose qui est très moderne aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde, qu'on soit bio ou pas, admet actuellement.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent la biodynamie? C'est à la mode?
Écoutez, il y en a quand même pas mal, et notamment en viticulture. Il y a toute une organisation de viticulture en biodynamie. Je pense qu'il y a plus de marketing là-dedans que de réalité, parce qu'en fait, du coup, on présente ces vins comme étant différents, parce qu'ils sont cultivés différemment. Mais alors, il y a des choses qui sont intéressantes. On dit, par exemple, dans le principe de Steiner, l'agriculture biodynamique est une agriculture assurant la santé du sol et des plantes pour procurer une alimentation saine aux animaux et aux hommes. Que demande-t-on de mieux et que fait-on d'autre aujourd'hui, ou du moins on essaye? Et on va trouver aussi quelque chose de très actuel, en disant la biodynamie considère que la nature est actuellement tellement dégradée qu'elle n'est plus capable de se guérir elle-même et qu'il est nécessaire de redonner au sol sa vitalité féconde. Ça, c'est comme ça que s'exprimait Steiner. On va dire que c'est le principe du sol vivant dont on a quand même pas mal parlé aujourd'hui.
Patrick, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire concernant la biodynamie, à part le fait que vous n'aimez pas trop ça?
C'est pas ça, mais c'est-à-dire que l'idée de Steiner, c'est de dire que le jardin ou la ferme est un organisme vivant qui a une individualité. C'est une vision extrêmement simpliste sur le plan scientifique. Et on a surtout des ajouts de préparation totalement démentes, qu'il appelle, par exemple, des choses pour dynamiser. Alors, on va vous donner un exemple. Il dit, par exemple, il faut mettre de la bouse de vache à l'intérieur de cornes de vache, enterrer ça pendant tout l'hiver, et après les redynamiser en les trempant dans l'eau, et les utiliser comme si c'était un super engrais, à la dose qui est de l'ordre de 1 millilitre pour 1 mètre carré. C'est rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il vous fait croire qu'en fait, en redynamisant les choses, tout d'un coup, mystérieusement, vous allez obtenir des succès fabuleux. Bon, il y a aussi autre chose qui est un peu curieux dans les calendriers biodynamiques, c'est que vous avez le jour feuille, le jour fruit, le jour racine, le jour fleur.
Et la lune aussi? La lune a un impact?
Qui est lié, en fait, à l'influence supposée de la lune, et surtout, ce qui est encore pire, des constellations. C'est-à-dire que si déjà, scientifiquement, on le sait aujourd'hui, l'influence de la Lune sur les croissances végétales est infime, on n'arrive même pas à le mesurer. Vous imaginez que les constellations qui sont à quelques centaines ou milliers d'années-lumière, ça ne fait pas grand-chose. Donc là, on est plus dans l'horoscope, si vous voulez, que dans la technique culturelle. Maintenant, vous avez le droit à y croire, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et comme vous voulez.
Voilà, ça sera le mot de la fin concernant la biodynamie, qu'on n'avait jamais évoqué d'ailleurs dans ce rendez-vous jardin. Mieux vaut tard que jamais. 6h27, c'était RMC, on revient dans un instant. Invité exceptionnel, on recevra le chef étoilé Michel Brass à l'occasion de la sortie d'un magnifique bouquin, Le goût du jardin, paru aux éditions Plume de Carotte. Et puis bien sûr, toutes vos questions au jardin dès maintenant, 32-16 ou bien l'appli RMC et Direct Studio. À tout de suite. Mais auparavant, la météo de ce week-end, Jérémy Souliman. Est-ce qu'on peut jardiner là, tiens, ce week-end?
Eh bien François, je vais dire, ça dépend d'où vous vous trouvez en fait. Voilà, si vous aimez jardiner sous la pluie, pourquoi pas, ça peut être le cas en Bretagne par exemple. Si vous préférez jardiner sous la grisaille, sous effectivement les nuages, en même temps un petit peu plus sec, ça peut être le cas un petit peu partout. Par contre, au soleil, il faut aller vraiment dans le sud de la France, autour de la Méditerranée, il n'y a aucun souci, vous pouvez jardiner sans problème. Côté température, ça risque, je vous en dirai un mot dans un instant, mais ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Alors, Alors, je vous l'expliquais, cette perturbation, il y a une perturbation qui arrive aujourd'hui par l'ouest actuellement. Elle amène avec elle de la grisaille, de la pluie et du vent. Ce matin, on va retrouver de la pluie, je vous le disais, sur la Bretagne, de la grisaille, des nuages bas partout ailleurs. Et puis un temps qui devrait rester tout de même agité en Corse. Seule la Méditerranée devrait rester sous ce soleil ce samedi. Dans l'après-midi, peu de changements, sauf cette pluie qui va se décaler vers l'est du pays et toucher une large bande allant de la Normandie jusqu'aux Pyrénées. Attention également à ce vent qui va se renforcer sur les côtes. On attend des rafales entre 70 et 90 km/h et jusqu'à 100 km/h même sur la côte vendéenne. Les températures, elles chutent un petit peu. Il va falloir vous couvrir. Au lever du jour, comptez de 1 à 7 degrés du nord au sud. On retrouve également quelques petites gelées ce matin, principalement dans l'est du pays. Et puis cet après-midi, les maximales, elles vont atteindre les 8 à 17 degrés avec 8 degrés attendus à Paris, 9 à Lille, 10 à Lyon et Strasbourg. On attend 12 à Brest et La Rochelle. 14, ce sera pour Marseille et Ajaccio et 17 degrés la maximale attendue à Toulon.
La météo sur RMC avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Omiris, un service opéré par EPS AgriCNAPS.
32-16, touche 1.
Pour poser toutes vos questions sur RMC,
à notre expert jardin, Patrick Mulan.